enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, vous savez quoi? Nous sommes dans un endroit qui est à part, béni. Dans l'Ancien Testament, on disait que le tabernacle, le temple était saint. C'était là que Dieu manifestait sa présence. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tabernacle comme ça. C'est pas ce bâtiment qui est saint. Ce sont des gens qui sont dans le bâtiment qui sont saints. Et quand l'Église est ensemble, il y a une manifestation de la présence de Dieu qui est à part. Vous savez, la Bible, nous disons, les théologiens, ils disent que Dieu, il est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il est partout. Alors, ça veut dire, s'il y a des bars ici, au cerf, Dieu, il est dans le bar. S'il y a des discos, Dieu, il est dans les discos. S'il y a un supermarché, Dieu, il est dans le supermarché, il est au McDonald's, il est je ne sais pas où. Mais il n'est pas là comme il est ici. Parce que Dieu, il est partout, mais il n'est pas partout de la même manière. Et la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Et ce matin, je vous annonce que Dieu est ici d'une manière à part. Il se manifeste dans l'assemblée de son peuple. Et quand nous sommes là pour louer, adorer le Seigneur, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Amen. Alors, je vous en supplie, ne dormez pas trop pendant que je prêche. Parce que vous allez louper quelque chose. Hein? Vous allez louper peut-être la guérison que le Seigneur a préparée pour vous. Je sais que ce n'est pas facile, parce que là, tu ne sais pas ça, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais quand moi, je prêche, une heure, c'est comme 10 minutes. Et quand les autres prêchent, 10 minutes, c'est comme une heure. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça. C'est un effet un peu bizarre. Mais ce que je veux dire, vraiment, accrochez-vous au Seigneur. Et ce qu'il veut faire, parce que le Seigneur, il a préparé de belles choses pour vous. De belles choses pour vous. Si vous avez votre Bible ce matin, Jean chapitre 11. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 11. C'est juste avant Jean chapitre 10, c'est juste avant Jean chapitre 13, et juste après Jean chapitre 10. C'est la page 817. 817 pour vous aider. Juste avant que je prêche, s'il vous plaît, tournez-vous vers 3 ou 4 ou 5 personnes. Donne-lui un grand sourire, parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de voir votre sourire. Hein? Amen. Notre frère Robert, il a un grand sourire ce matin, il a raison pour son sourire, n'est-ce pas? Amen. C'est Jésus dans ton cœur, n'est-ce pas? Oui. Et le portable dans la poche. Amen. J'aimerais bien aussi dire merci beaucoup au pasteur et à son épouse Brigitte. Vous avez des pasteurs formidables. Amen. La sœur Brigitte, je ne sais pas comment elle a supporté Pasteur Moïse toutes ces années. Je sais que vraiment c'est une formation spirituelle, mais elle réussit bien. Non. Et merci aussi, vous êtes des gens attachants et je vous apprécie beaucoup. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, elle est puissante. la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai vraiment le sentiment que dans plusieurs vies, tu veux que cette parole œuvre. Ce n'est vraiment qu'il y a des blocages et des points où ça ne passe plus. Seigneur, il y a même des pierres qui sont roulées devant le tombeau et on dit « laisse ». Mais Seigneur, ce matin, je crois de tout mon cœur, Lazare, il va sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez reprendre votre place si vous voulez. Lazare avait un problème. Il était malade. Il allait avoir un grand problème. Il allait être mort. Alors ça, si vous voulez être vivante et être mort, c'est un problème assez grave, n'est-ce pas? Mais heureusement, Lazare, il connaissait des gens. Il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider, qui s'appelait Jésus. Mais Jésus était sur terre, il était un peu éloigné. Mais ses sœurs, en étant des bons membres des assemblées de Dieu, je suppose, je ne sais pas, elles ont dit, ah, mais si Jésus était là, il peut le guérir. J'ai entendu que Jésus est là-bas. Alors, ils ont peut-être envoyé un serviteur. Dans mon imagination, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est seulement mon imagination. Mais je vois David, ce serviteur, qui saute sur un chameau. Il part dans un nuage de sable et de poussière là. Il arrive sur son chameau. Il saute. Jésus! Celui que tu aimes, il est malade, viens! Et voilà, Jésus lui dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Waouh! Il a une parole de la bouche du Seigneur lui-même! Alors, si, c'est pas, mais peut-être il ressort sur son chameau, il repart en toute vitesse, il arrive chez Marie et Marthe, il vient, Marie, Marthe, gloire à Dieu. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je peux presque voir Marie, oh, merci, oh, gloire à Dieu. Parce qu'elle savait déjà que Jésus avait dit l'amour. Le mot. Et puis, les gens ont été guéris d'une distance. Hein. Et là, il a dit, Lazare, il n'allait pas mourir. Et Lazare, il est mort. Figurez-vous. Ils avaient une parole du Seigneur. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Vous avez cru que le Seigneur a parlé à votre cœur? Vous vous êtes dit, mais Seigneur, je sais que tu m'as dit ça. Et maintenant, le contraire est arrivé. Quand nous avons commencé au Luxembourg, c'était difficile. Et on a commencé une église avec un autre frère et son épouse à Luxembourgville, et puis une deuxième église à SEAZ. Et pendant un an, il y avait un autre frère qui m'a remplacé. Et c'était une année difficile, parce que j'étais là-bas aux États-Unis pour une tournée missionnaire. Et lui, le monde est tombé sur sa tête. Et quand j'étais de retour, il était frustré, il était un peu amer, parce que là, il y avait des gens qui n'ont pas été trop gentils avec lui, et des situations qui ne sont pas allées comme il voulait. Et il m'a dit, David, il ne faut pas prier au Luxembourg, parce que quand tu pries, le contraire arrive. Est-ce que ça vous arrive de jamais que vous avez le sentiment que vous priez, et c'est le contraire qui arrive? Moi, oui. Et dans les mois qui suivaient, le Seigneur commençait de bénir. Et le Seigneur, il m'a dit, David, tu sais quoi? Je ne te bénis pas pour tes prières. Parce que cet autre frère, il a planté la semence de la prière. Et maintenant, tu récoltes ses prières. C'est chouette. C'est bien. Malheureusement, je devais continuer de prier, continuer de planter des prières pour que j'aurai une récolte moi-même. Mais mes amis, des fois, on ne comprend pas ce qui arrive. Des fois, il y a des choses qui viennent dans la vie et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne nous aimes pas? Mais la Bible dit précisément que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Marthe et Marie. Parce que des fois, quand ça n'arrive pas comme nous voulons, nous disons, Seigneur, mais est-ce que tu m'aimes? Seigneur, ta parole dit ceci, ta parole dit cela. Et j'ai prié, et Seigneur, il me semble que vraiment, tu es sourd. Et à la fin, ça devient grave. Parce qu'on se pose des questions, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans notre relation? Bon, laisse-moi sauter un peu en avant avant de revenir à notre place là. Mais sachez que Dieu ne fait pas des choses comme nous. Moi, si j'étais Dieu, en ce qui me concerne, pour vous, mais en ce qui me concerne, quand je prie, je répondrai tout de suite. David prie, si David, voilà, tu l'as, David. Tu as un problème, bon, tu solutions. Tu as mal, bon, tu te guéris. Tu es malheureux, bon, tu te donnes la joie. Tout de suite, pas de problème, pas de question. Mais Dieu ne fait pas avec comme ça avec moi, malheureusement. Heureusement. Parce que là, tellement souvent, je peux voir la gloire de Dieu en attendant, en croyant. Parce qu'il y avait une raison que Jésus ne l'a pas fait. Il voulait le voir, les montrer une plus grande gloire. Il savait déjà que Jésus était capable de guérir. Il savait déjà qu'il avait une parole puissante. Mais il ne savait pas qu'il était capable de prononcer une parole à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours et puis cette personne sort du tombeau. Et il y avait une image, c'était même un métaphore pour ce que Dieu faisait dans notre vie et dans notre âme. Il est capable, mes amis, de sauver l'âme perdue, la morte. Et Lazare allait être l'illustration vivante de cela. Si Jésus était venu tout de suite, parce que plus tard, Marie et Marc, les deux, ils allaient dire, « Mais Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Oui, c'était tout à fait vrai, mais ils n'auraient pas vu, elles n'auraient pas vu la gloire de Dieu comme ça. Je me souviens, encore au Luxembourg, dans cette deuxième église, on avait une petite salle, vraiment trop petite, assez minable et tout ça, et on devait vraiment trouver autre chose. Alors, on cherchait pour acheter, et on croyait avoir trouvé la salle pour nous. Alors, c'était un peu juste, et ben, c'était pas trop bien situé, parce qu'il n'y avait pas de parking vraiment, et puis c'était cher pour nous, c'était limite, et moi je me suis dit, tiens, si on prend pas, si on fait pas quelque chose, on sera comme les enfants d'Israël, qui refusaient d'entrer dans le pays de promesse et j'en ai assez de tourner dans ce désert, on va aller par la foi. Alors nous sommes allés par la foi, on a signé un compromis et puis à cause de une chose, situation compliquée, on n'a pas eu le bâtiment. Et moi je me suis fâché avec le Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Parce que là, voilà ton homme de puissance et de foi et tu m'as laissé tomber. Quelque part, notre orgueil est engagé. David a dit que c'est le Seigneur. Et voilà, ça n'est pas arrivé. Et puis, je boudais un peu. J'ai changé de religion. Je suis devenu bouddhiste. Je boudais beaucoup. Non, c'est pas vrai. J'ai pas changé de religion. Vous croyez que j'ai... Non. Et ça traînait quelques mois. Et puis, il y avait un frère qui me téléphone, un des leaders de l'église, il dit, David, écoute, tu sais, j'ai vu dans le journal une salle qu'on veut la vendre. Alors, moi, j'avais déjà tout laissé tomber dans ma tête. Je devais vraiment me fortifier dans ma foi pour aller. Et puis, maintenant, ça recommence. J'avais pas trop l'envie de recommencer parce que, vous savez, c'était quand même risqué. Je m'étais dit, bon, si tu n'arrives pas de payer des mensualités pour cette salle, j'avais déjà visité dans la prison de Luxembourg et je voulais pas y aller. Et, aïe, aïe, aïe. Mais là, le frère, nous sommes allés ensemble. Écoute, quand je voyais cette salle, je me dis, oh là, ça a l'air d'aller. C'était plus grande, enfin beaucoup plus grande. C'était la situation était bien, il y avait du parking un peu partout, et c'était beaucoup moins cher. Et pour raccourcir, Dieu nous a donné une salle qui était beaucoup mieux que celle que je croyais que je devais avoir pour moins d'argent. Et en plus, il a fait un miracle. On a dû faire un petit prêt là. Alors, bon, c'était pas tellement petit, mais pour 15 ans, on avait déjà payé en 9 ans. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et j'ai vu sa gloire. Mais à un moment donné, j'étais fâché avec Dieu parce qu'il n'avait pas fait comme moi je croyais qu'il devait faire. Et des fois, on est vraiment, vraiment convaincu que Dieu veut faire d'une certaine manière et il veut faire d'une autre manière. Que nous disons souvent, nous ne voyons pas des miracles comme dans le temps. Alors, vous voulez savoir comment voir un miracle? Il faut avoir un problème. Par exemple, est-ce que vous aimeriez bien voir un miracle de guérison? Alors, est-ce que vous serez disposé d'avoir une grave maladie pour que Dieu puisse vous guérir? Bon, si c'est un autre qui a la grave maladie, j'aimerais bien voir Dieu guérir un autre, n'est-ce pas? Mais moi, ou mon épouse, un de mes enfants, ça... Mais quelque part, pour voir un miracle, il faut avoir besoin d'un miracle. Je préfère ne pas avoir besoin d'un miracle, mais je veux voir la gloire de Dieu. Et vous voyez, ici, Lazare, tu dis, ah Seigneur, mais écoute, comment, c'est vrai, on a vu ta gloire, mais il a dû mourir quand même. Je ne sais pas si ça faisait mal ou non, mais c'était assez. Et là, mais vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Moi, je m'appartiens au Seigneur. Toi, si tu es chrétien, tu t'appartiens au Seigneur. Et le Seigneur, il dispose comme il le veut avec vous. Est-ce qu'il est méchant? Non! Il aimait, la Bible dit clairement, il aimait Lazare. Mais Lazare a dû souffrir. Pour un moment, il a dû même mourir. Et des fois, combien de fois avons-nous eu la mort de nos rêves? Combien de fois nous sommes passés par les moments difficiles, pénibles? Qui n'était peut-être même pas le Seigneur, c'est le diable qui nous attaquait, mais le Seigneur, il nous a dirigés par ce chemin. Pourquoi? Pour que sa gloire se voie. Je partageais avec quelqu'un hier soir. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est bizarre comme tout, mais qui me bénit comme tout. C'est Samson, l'incroyable Hulk de l'Ancien Testament là. Là, il se promenait un peu dans le champagne, la campagne là, et puis tout d'un coup, il y avait un jeune lion qui avait faim. Il croyait que c'était un Max Samson et il allait le manger. Alors, il est venu, il sautait sur ça. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Samson. Il l'a déchiré comme si c'était rien de tout. Il l'a tué. Il a laissé les dépouilles là, le corps. Et puis, quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, il est repassé et avec ses parents. Et il se promenait par là, et Samson il dit, écoute, moi je vais ici. Et il voulait voir le lion, je ne sais pas pourquoi, mais quand il était là pour voir les dépouilles de lion, il y avait des abeilles qui avaient fait un nid dans ce lion, et ils avaient fait du miel dans le corps de ce lion mort. Alors Samson, il avait un estomac assez solide, alors il a pris du miel, il commençait de manger, et quand il était là, la Bible dit, il a donné à ses parents. Il n'a pas dit, selon la parole de Dieu, d'où est venu ce miel. Je crois que c'est pourquoi il ne leur a pas dit d'où est venu ce miel-là, mais quand même, il a eu à manger, il a eu à partager avec les autres. Et souvent, mes amis, nous laissons ces situations difficiles nous tuer parce que nous sombrons dans l'amertume, dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans la frustration. Et on se dit, Seigneur, pourquoi? Et on est revendicateur, on est toujours en train de revendiquer Dieu, pourquoi, 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 pourquoi? Et si nous attendons assez longtemps, il y aura des abeilles qui fait du miel dans cette situation. Samson a même fait un poème, un proverbe. Il a dit, de celui qui mange est venu ce qui se mange. Et il y a des situations qui veulent vous manger ce matin, qui veulent vous détruire. Je vous assure que quand le lion est venu vers Samson, il n'est pas venu pour qu'il puisse devenir une illustration de la gloire de Dieu. Il est venu pour tuer Samson. Et il y a des situations qui viennent dans votre vie pour vous détruire. Et elles peuvent, si vous les laissez faire. Et à la fin, c'est vous qui décidez si ça va tourner en bénédiction ou bien ça va vous détruire. Parce que j'ai vu des chrétiens, certaines mêmes situations. Devant cette situation, l'un, il est frustré, il est abattu, c'est fini. Un autre, quand même, c'est le combat. Et il prend ça, et dans ce combat, il prend des forces, Seigneur, et il grandit. Et vous savez qui décide, lequel vous êtes? Ce n'est pas Dieu. C'est vous qui prenez la décision. Alors Jésus, il dit, ok. On va aller maintenant, il dit aux disciples. Il allait chez Marthe et Marie, il restait en dehors du village. Et puis, Marie, elle est venue, et elle a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, au verset 21, si tu eusses été ici. Qui parle comme ça? Eusses été. C'est de français, ça? En 1910. Alors, non, si tu avais été, c'est ça? C'est enfant? Ok. Moi, je vais parler américain. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est assez clair ce qu'elle pensait. Marie est venue un peu plus tard. Elle est tombée au pied du Seigneur. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et vous savez quoi? Elles avaient raison. Revenons un peu à cette idée. On a toujours une grande question parce qu'on dit que Dieu, il peut tout faire. Et Dieu, il est capable de tout faire. Et s'il ne le fait pas comme nous le voulons, on dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme on dit, quand on ne donne pas l'aide à une personne en danger. On dit que c'est contre la loi. Il faut aider ces personnes. Ce n'est pas juste. Est-ce que vous avez déjà accusé le Seigneur de l'injustice? C'est une mauvaise nouvelle pour vous et moi. Ce n'est pas nous qui déterminons ce qui est juste. Parce que nous n'avons pas la vue d'honneur. Nous avons une vue très, très limitée. Nous voyons ici devant notre nez, c'est presque tout. La justice est déterminée par le Seigneur lui-même. Et c'est vrai que ça semble frustrant. Parce que, bon, si on n'est pas pentecôtiste, ça va. Mais nous croyons que Dieu guérit. Nous croyons que Dieu délivre. Nous croyons que Dieu fait des grandes choses. Alors, si vous croyez la parole de Dieu, et le Seigneur, il ne fait pas comme tu veux, et s'il ne vient pas tout de suite au secours, là, il y a des grandes questions. Et moi, je ne blâme pas Marie. Et le Seigneur non plus. Il n'a pas blâmé Marie. Mais j'aime beaucoup ce que Marie a dit. Seigneur, si tu avais été là, ici, mon frère ne serait pas mort, mais... Marthe, moi je voulais voir si tu étais vraiment en train d'écouter ou non. Ma femme, elle écoute bien. Mais, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais, c'est le mais le plus grand de la Bible. C'est le plus grand mais de la Bible. C'était pour, à Lazare, la différence entre la vie et la mort. Mais, tu sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dieu sait, répondit Marthe, elle devient très spirituelle, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Si vous avez besoin de la nouvelle vie ce matin, le pardon de péché, la vie éternelle, d'être justifié et correct devant Dieu, Jésus-Christ est là, il est la résurrection. Tout comme il a ressuscité Lazare physiquement, il fait la résurrection dans votre âme. Vous serez pardonné, purifié par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe, j'aime beaucoup. Si vous entendez des prédications sur Marthe, c'est presque tous négatifs, toutes négatives ces prédications. Parce qu'on dit, oh oui, Marie... Elle était là au pied du Seigneur et voulait entendre les paroles du Seigneur. Mais Marthe, dans la cuisine, en train de travailler quand elle aurait pu écouter les paroles du Seigneur. Mais une petite parenthèse, Pierre n'était pas mécontent que Marthe soit là dans la cuisine. Jacques et Jean, ils n'étaient pas mécontents que Marthe soit dans la cuisine. Amen. J'ose dire, probablement moi aussi, je n'aurais pas été mécontent si Marthe était dans la cuisine, parce que je sais ce qui sort de cette cuisine. Alors, c'est bien. Mais c'est vrai que, quelque part, il y a... Marie avait un esprit de louange qui était peu commun. Un esprit de vraiment consécration qui était peu commun. Mais vous voyez ici, quand le Seigneur est venu, il n'est pas venu d'abord à Marie. Parce que Marie, elle est venue. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort.
point final. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais chez Marie. Elle ne comprend pas. Gloire à Dieu. Elle aime toujours Jésus. Parce qu'elle vient. Elle exprime son cœur. Mais il n'y a pas un mot de foi dans tout ce qu'elle dit. Et la femme qui était la femme qui était vraiment, qui nous aide de visualiser ce qui est la louange. Marie. Mais là, devant cette situation, c'est pas pour critiquer, mais il me semble que Marie s'est plantée. Il me semble que si Marthe n'avait pas été là, Lazare ne serait jamais ressuscité et on n'aurait jamais vu la gloire de Dieu comme ça. Alors Marthe dit, Seigneur, je ne comprends pas. Si tu avais été là, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu. Parce qu'il me semble que le serviteur qu'elle avait envoyé, peut-être il était déjà de retour. Et là, Jésus, et il attendait. Et dit, mais pourquoi Jésus n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas répondu à ma prière? Pourquoi? Elle n'a pas compris. Il avait plein de questions. Et elle était perplexe. Elle ne savait pas. Mais il y avait une chose. Elle disait, en effet, moi je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je sais quand même, je crois en toi, Jésus. Et c'est déjà quelque chose. Parce que mes amis, dans cette vie, vous aurez des situations que vous n'allez pas comprendre. Je vous assure. Moi, j'en ai eu quantité. Je priais et je disais, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il y a mille choses qui tournent dans la tête. Et tu dis, mais pourquoi le Seigneur ne change pas cette situation? Mais je vais vous dire quelque chose. Si on comprend, on ne comprend pas, ça ne change rien de tout. Jésus-Christ est ici, c'est toujours Seigneur. Il est la résurrection et la vie. Amen. Mes circonstances changent. Des fois, il y a des circonstances que je n'aime pas. Et il y a une chose qui ne va pas avec la grâce de celui qui ne va pas changer chez moi. Je vais croire quand même. La fondation de ma vie, c'est ma foi en Jésus-Christ. Le fait qu'il m'a sauvé, qu'il m'a pardonné mes péchés, qu'il m'a changé. Moi, je souhaite que dans ma vie, tout va bien. Et c'est pas toujours comme ça. Mais mes amis, ça ne change pas le fait que Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je prie que j'aurai la force comme Marthe, s'il y a des choses qui m'arrivent, de dire, Seigneur, ok, je crois. Aujourd'hui, c'est le jour des illustrations de Luxembourg, je suppose, mais tout au début, on avait deux jeunes hommes qui se sont convertis. Et là, je crois que le Seigneur avait fait une chose dans les deux vies. Mais un de ces jeunes hommes, je me souviens, après un certain temps, peut-être des mois, il est venu un soir avant la réunion et il a dit, écoute David, parce qu'il voulait vraiment, il en avait assez de son travail et il voulait se marier. C'est comme ça. Alors jeune, je dirais pas que c'est une mauvaise chose. Mais il m'a dit, c'était le mardi soir, David, si le Seigneur ne me donne pas un autre travail et une femme avant le vendredi. Je cite seulement, ok? Il a dit, c'est fini avec ça. Il a indiqué l'église. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Le Seigneur, c'est pas une machine à Coca-Cola que où tu mets ton euro là, tu pousses le bouton et ça. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je crois que le Seigneur te donnera, mais il faut que tu sois patient. Et là, il dit, non. Il a dit ce qu'il a fait. Et il a fait ce qu'il a dit. Et quelques mois plus tard, j'ai entendu des nouvelles. Il avait effectivement eu un nouveau travail. Et il avait une femme, un enfant. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Là, il vient à l'église, il s'adresse à toi, il n'a rien. Et puis, il te quitte. Et quelques mois plus tard, il a déjà une femme et un autre travail. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le diable, il est content de vous donner quelque chose pour vous éloigner de Dieu. Mais ce que le diable vous donne, il y a des autres choses qui vont avec. Parce que là, ce jeune homme, il commençait de reboire, parce qu'avant de venir au Seigneur, il buvait beaucoup, il commençait de reboire, et sa vie allait de mal en pire, il perdait ce travail, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'il a fait et boire. Son épouse n'en pouvait plus, elle était dans un foyer pour les femmes abattues, je suppose. Et là, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas patience. L'autre jeune homme, il était en face, c'est celui dont j'ai parlé l'autre soir, en face des choses peut-être encore plus difficiles, parce qu'il a pris il s'est drogué avec des drogues, comme des psychédéliques, qui vraiment faisaient des choses à la tête, il avait toutes sortes d'expériences avant de connaître le Seigneur, mais il est venu au Seigneur. Et peu à peu, à peu, à peu, je voyais cet homme se fortifier. Et mes amis, c'est la différence. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Des fois, il n'est pas facile de servir le Seigneur. Hein? Un pasteur qui dit ça? Oui, les chrétiens, une fois, on avait un café-bar chrétien au Luxembourg, et on revenait, on avait capturé une victime dans la rue, là, on le ramenait au café-bar. Et là, ma partenaire, elle disait à cet homme, « Oh, mais seulement, donne ta vie au Seigneur, il va solutionner tous tes problèmes. » Et je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fois, tu viens au Seigneur, et tu auras des problèmes que tu n'avais pas eu auparavant. Vous venez au Seigneur, vous les femmes, et vous croyez que votre mari est incroyant, il est content? Vous croyez que maman et papa, ils sont contents parce qu'ils croient que vous êtes tombés dans une secte ou quelque chose comme ça? Des fois, le Seigneur compliquera ta vie! Oh là là! Quelle prédication! Mais c'est vrai! C'est vrai! Mais si vous continuez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur va vous donner une vie qui est mille fois supérieure à ce que vous aurez eu sans le Seigneur Jésus-Christ. Et la vie éternelle en plus. Ça vaut le coup de servir Jésus. Je sais, ça vaut le coup de servir Jésus. Alors, Marie était là et je cours au pas d'escargot dans mon message. Je cours vers la fin. Mais Marie est venue frustrée. J'aime bien le Seigneur. Il n'a pas dit, Marie, mais qu'est-ce qu'il y a là? Tu as entendu mes paroles? Marc n'était même pas là, elle était dans la cuisine. Tu as entendu mes paroles? Et regarde-toi maintenant, tu pleures comme un enfant. Lève-toi, ayez de la foi. Il n'a rien dit. Rien dit. Pour dire que le Seigneur sait qu'il y a des fois des tourbillons qui tournent en nous. Pour dire que le Seigneur sait qu'il y a des moments que nous ne comprenons pas. Pour dire que le Seigneur sait qu'il nous faut des fois un peu de temps, vraiment pour digérer les choses par la foi, pour remettre notre foi ce qu'il faut. Il est patient avec nous, le Seigneur. Bien que je crois que ça touche son cœur. La Bible dit que Jésus était ému. Et il a pleuré même. Et je me suis dit, mais pourquoi a-t-il pleuré? Est-ce qu'il a pleuré? Parce que ce n'était pas seulement Marie qui exprimait ça, mais c'était aussi ces autres Juifs qui étaient avec. Et celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire en sorte que cet homme ne meure pas? C'est ce qu'ils ont dit. Jésus a entendu ça. Et est-ce qu'il était frustré à cause de l'incroyance? Je crois que c'est possible. Je ne sais pas. Parce que je crois que mon incroyance, ça blesse le cœur du Seigneur. Des fois, je me dis, mais David, regarde-toi. Regarde ce que Jésus a déjà fait pour toi. Regarde les fois qu'il est venu pour répondre à ta prière. Et regarde comme tu es maintenant. Où est ta foi? Ça doit blesser le cœur de Dieu quand il fait tant de choses pour nous et puis nous ne répondons pas par la foi. Mais je crois que c'était encore plus que ça. Parce que si vous voyez surtout en Matthieu, souvent, avant de guérir quelqu'un, Jésus a été ému par compassion. Il avait une capacité merveilleuse pour entrer dans les sentiments, dans la souffrance des autres. Jésus a été touché par ce qui nous touche, mes amis. Comme j'ai dit le vendredi soir, si vous avez mal, Jésus dit exactement, je sais ce que tu ressens, parce que moi aussi, j'ai eu mal. Pour toi, j'ai porté ta douleur, j'ai porté ta souffrance, j'ai porté ta maladie. Je sais exactement ce que. Et souvent, nous, je crois que nous verrons plus souvent des guérisons que nous prions pour les gens si on avait cette capacité de compassion. Nous prions pour les gens. Oh, le nom du Seigneur. Et s'il n'est pas malade avant la prière, il est un peu malade après la prière. Il a un protocole, hein, comme ça. Et je me demande des fois si nous ne sommes pas déjà en train de donner le témoignage de la grande guérison qui est venue quand nous avons prié. Et Jésus, il est entré dans la souffrance. Il ressentait la douleur de Marie et Marthe qui ont perdu un frère qu'ils aimaient plus que la vie. Et mes amis, si vous voulez que le Seigneur se serve de toi, ne reste pas éloigné des douleurs de ce monde. Quand vous voyez cette personne dans la rue qui a besoin, quand vous voyez ses voisins, ses voisines qui ont mal, d'abord avant d'essayer d'aller avec des petits versets plastiques de la Bible, mettez-vous devant le Seigneur et que le Seigneur te donne son cœur et qu'il te donne à ressentir ce que ces personnes-là y ressentent. Et puis quand vous entrez dans cette situation avec la parole de Dieu, ce ne sera pas seulement des petits versets plastiques comme ça, ce sera la parole de Dieu qui est appliquée à la situation. Il y a des chrétiens qui font plus de mal que de bien avec la parole de Dieu, parce qu'ils le suivent comme ça, et ça ne les touche pas. Oh, tu as perdu ton mari, ah, c'est rien, la Bible dit, tu sais, et voilà, et tu dis, tais-toi, tu fais plus de mal que bien, du bien. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser la parole de Dieu, David? Si. Et assis-toi. J'ai lu une petite histoire, un garçon, 4-5 ans, son voisin âgé avait perdu sa femme de plusieurs années. Et après le moment, elle a entendu que le petit garçon a visité le voisin et elle a entendu qu'il lui a fait beaucoup de bien. Et le moment a dit au fils, là, mais fiston, qu'est-ce que tu as fait pour lui faire du bien? Fiston a dit, j'ai rien fait. J'ai grimpé sur ses genoux et j'ai pleuré avec lui. Et je crois que quand nous sommes capables de pleurer avec quelqu'un, nous sommes beaucoup, beaucoup plus aptes de prier la prière de foi. Amen. Et le tout dernier point. Jésus venait au tombeau. Il dit, Marthe, roulez la pierre. Et Marthe, c'est une femme. Évidemment, c'était des gens qui avaient des moyens. Alors, très comme il faut. Mais Seigneur, écoute, c'est 4 jours maintenant. Ça pue. Excusez-moi. Très, tu sais. Et le Seigneur dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors nous sommes très spirituels. Nous disons, Marthe, roule la pierre. Et si tu avais été Marthe, tu aurais fait exactement comme elle. Tu dis, Seigneur, m'écoute. C'est déjà assez douloureux de perdre mon frère. Maintenant, tu vas ouvrir tout ça de nouveau. Et ça, et vous savez, il y a des choses, mes amis, dans notre vie, qu'on a prié, on a vécu ça. Il y a des amertumes. Il y a des blessures de la vie. Il y a des questions. Et on n'a pas vraiment eu, si vous voulez, la résurrection. Alors, on a roulé la pierre devant le tombeau. Et on dit, quand le Seigneur vient, il dit, moi, je veux faire quelque chose. Il dit, laisse, Seigneur. Ça va. Non, non, non. Je vis avec. Laisse. Parce que ça fait trop mal si tu ouvres le tombeau de nouveau. Ça pue. Excuse-moi. Mais ça sent mauvais. Seigneur, je ne veux pas que ça soit ouvert de nouveau. Cette situation que j'ai vécue maintenant, ça va, c'est derrière moi, mais ce n'est pas guéri. Parce que je ne crois pas que c'est assez seulement de vivre des choses difficiles. Mes amis, Dieu veut vraiment vous donner une résurrection dans chacun de vos douleurs, dans chacun de vos maladies, parce que Jésus, il a porté tout ça à la croix. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, le Seigneur. Il est sorti du tombeau. Et le Seigneur aussi, il veut que vous viviez dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de sa résurrection. Et quand Jésus vient, il dit, tu vois ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant. Tu as essayé d'oublier ça. Et le Seigneur vient et tu dis, laisse Seigneur. Et le Seigneur dit, non, ouvre la porte. Roule la pierre. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, même dans cette situation. Ce que ces gens t'ont fait, ce que tu voulais, vraiment tes rêves, et maintenant tu ne les as pas eus, parce que là, et le Seigneur, non, écoute, roule la pierre. Laisse-moi entrer dans la situation. Lazare est sorti du tombeau. Ce matin, mes amis, j'ai parlé à chaque personne ici. Je crois qu'il n'y a, moi-même aussi, je crois qu'il n'y a personne qui passe à côté de la souffrance sans être touché dans cette vie. Je crois qu'il n'y a personne qui échappe à être blessé des fois injustement. Souvent, même plusieurs d'entre vous, maintenant, vous êtes en train de souffrir des choses injustement. Plusieurs d'entre vous, ce matin, vous avez des choses qui sont mortes dans ta vie. Tu as roulé la pierre, là, tu dis, laisse. Seigneur, je n'ai pas l'envie de ouvrir ça de nouveau. J'ai déjà assez souffert. Ça pue, Seigneur. Laisse. Et tu peux le laisser. Marie et Marthe auraient pu vivre toute leur vie sans que Lazare sorte du tombeau. Parce que, de toute façon, il allait mourir plus tôt ou plus tard. Mais elle n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. Mes amis, quand vous voyez la gloire de Dieu dans cet endroit qui est mort, qui fait mal, ça change ta vie. Et ça te donne aussi la capacité d'aider les autres qui ont aussi été touchés par cela. Seigneur, merci. Merci, Seigneur.
Enseignemoi.com
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.